Les marchandes de sable, Brunefeuille, Le prince se marie et autres contes inclusifs. L'oiseau couleur de rubis de Christina Rita Molnar. L'histoire que je voudrais vous conter ne parle pas vraiment d'un oiseau couleur de rubis. En fait, si. Mais avant qu'il ne s'envole pour feindre le ciel de ses ailes écarlates et ne nous fasse enfin entendre son chant lointain, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, ce n'est pas moi qui ai inventé cette histoire. Je ne fais que vous la rapporter, car je la trouve belle, triste et étrange. Elle donne beaucoup à réfléchir. C'est une histoire ancienne, du temps où les rois faisaient eux-mêmes paître leurs troupeaux sur les montagnes de Grèce. Caenis était une merveilleuse jeune fille. Vous savez, une de ces filles qu'il est difficile de regarder tant l'éclat de leur beauté nous éblouit. Une de celles dont on dit qu'il est plus facile de contempler le soleil en face. Elle était née au bord de la mer Égée, en Thessalie. Et Latus, son père, lui avait donné une éducation royale. Sa mère, Hypéa, lui avait appris à chanter, à tresser ses cheveux en macarons et à récolter le miel. La belle Caenis avait de nombreux prétendants. Les princes d'autres cités auraient été heureux de l'épouser et tenter leur chance l'un après l'autre dans l'espoir d'être élus. Seulement voilà, la belle Caenis ne voulait pas de mari. Elle préférait se promener seule sur le rivage. Après avoir déjeuné de quelques noix au miel, elle épinglait dans ses cheveux des fleurs d'oranger blanches comme neige ou des pétales rouges d'oléandre et s'en allait. Elle ramassait des cailloux et des coquillages aux jolies formes en chantant les doux chants appris de sa mère. « Que je t'aime, beau matin de rubis, c'est un chant de miel que je chante pour toi, je suis en vie, comme si je volais, danse de joie ma joie et mon esprit. » Tandis qu'elle marchait sur la plage, du sable se glissait dans ses sandales dorées et lui chatouillait les pieds, mais cela ne la gênait pas. Elle s'asseyait de temps en temps sur une grande pierre plate, dénouait les lanières de ses sandales d'où elle faisait rouler les grains de sable brillants. Puis elle s'approchait de la mer, plongeait les mains et les pieds dans l'eau peu profonde de la baie que tiédissait le soleil. Elle aimait l'eau, elle aimait les couleurs plus vives des cailloux dans l'eau, elle aimait regarder les Bernard l'ermite se glisser entre les pierres et déambuler au fond. L'eau grossissait les pattes des petits crabes, les nervures des coquillages vides et les motifs des coquilles d'escargots charriés vers le rivage. Mais Caenis avait aussi peur de l'eau, cette immensité qui semblait infinie. Elle ne pouvait jamais savoir quand la houle allait enfler, quand se déchaînerait une tempête, quand les vagues furieuses viendraient s'écraser contre la haute falaise encadrant la baie. Sa mère Hypéa l'avertissait souvent lorsqu'elle partait pour une promenade solitaire. Elle l'exhortait à la prudence, car la mer, tout comme son dieu Poséidon au trident, est imprévisible. Elle lui avait aussi expliqué que tout ce qui est imprévisible est dangereux, et qu'il vaut mieux se tenir à distance. Mais Caenis ne prenait pas assez au sérieux les conseils de sa mère. Elle ne comprenait pas bien à quoi elle devait prendre garde. Puis un jour, le malheur arriva. Ce jour-là, Caenis piqua des hibiscus pourpres dans sa chevelure d'ébène et, comme à son habitude, partit vers la mer. Le vent teintait sa joue de corail, sur ses lèvres luisant comme le miel du matin. Elle ne pouvait pas savoir que ce matin-là, Poséidon au trident avait choisi sa chère baie comme lieu de repos. Ce n'était pas encore la marée basse, l'eau montait assez haut sur le sable moelleux. Caenis s'arrêta pour attendre le reflux. Elle aimait assister au spectacle fascinant de l'eau qui, en se retirant, laissait le sable aussi lisse que s'il était recouvert d'un châle de lin. Sans compter qu'après la marée haute, le rivage était jonché de coquillages colorés, de squelettes d'oursins et d'os de seiche. Des trésors que l'eau lui apportait des profondeurs de la mer. Rien qu'à elle, pour qu'elle en remplisse son panier et en fasse des colliers ou des ceintures. Lorsque Poséidon, le dieu des mers, vit cette beauté s'approcher en chantonnant, il fut submergé d'un désir irrépressible. Il sentit qu'il devait immédiatement l'étreindre, l'enlever, afin qu'elle ne soit jamais à personne d'autre, rien qu'à lui. Alors l'eau ne se retira pas lentement comme après chaque marée haute. Mais obéissant à Poséidon, son maître, elle déferla avec violence. Les vagues caressèrent et enlacèrent Caenis, d'abord doucement, léchant ses orteils, puis la serrèrent de plus en plus fort et l'emportèrent. Le flot impétueux déchira la couronne de fleurs et la jupe brodée de Caenis, arracha les lanières de ses sandales dorées. L'écume emmêla ses cheveux bouclés en touffes poisseuses. Caenis, en proie à une frayeur mortelle, subit l'assaut de Poséidon. Elle ne pouvait pas bouger, aucun son ne sortait de sa gorge. Elle ne pensait à rien, même si tout son corps lui disait « Assez, 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 je ne veux pas être englouti par la mer, je ne le veux pas, mais je suis sur le point de me noyer, hélas. Je ne peux pas respirer et une douleur sourde envahit ma peau tendre, écrasée et malmenée par les vagues. » Enfin, elle n'aurait su dire comment, Poséidon relâcha son étreinte. Ils étaient tous les deux sur le sable humide parmi des milliers et des milliers de coquillages brisés. Caenis ne put s'empêcher de reculer, tant elle était oppressée par la présence du puissant dieu des mers. Les débris de coquillages blessèrent ses pieds désormais nus, mais elle ne sentit pas ses infimes blessures. Elle ne remarqua pas que le sang suintant de ses pieds teintait de rouge les cailloux blancs de la plage. Elle était comme figée de terreur. Alors Poséidon lui parla. « Tu es une fille magnifique, tu sais. Il y a peu de merveilles telles que toi parmi les mortels. J'ai donc décidé que tu pouvais me demander n'importe quoi. Dis-moi ce que tu veux. Quoi que tu désires, tu l'auras. Je ne te le refuserai pas, merveilleuse Caenis. » Caenis répondit sans réfléchir. Les mots sortirent de sa bouche comme des pignons tombent d'une pomme de pin par une journée torride. « Fais que je ne sois plus une femme. Change-moi en homme. À cette minute même, que je sois forte. » Que plus jamais personne ne m'agresse, ne me malmène, ne me déchire ni ne me blesse. Poséidon tient parole. Le temps que Caenis achève sa demande, sa voix était devenue grave, comme celle d'un jeune homme. Se regardant avec surprise, elle ne vit plus Caenis, mais Caenos en habit d'homme. Les muscles de ses bras saillaient comme des grenades mûres. Son corps frêle de jeune fille avait disparu. Il était plus grand et ne tremblait plus. Le dieu des mers lui fit un autre présent qu'il n'avait pas demandé. Il le rendit invulnérable, comme si son corps était recouvert de fer et non de peau, afin que nul mortel ne puisse le blesser. Ainsi, Caenos vécut-il sans risque des années durant. Il accomplit de tels exploits que son nom fut inscrit parmi ceux des plus grands, les Argonautes. En compagnie des plus vaillants héros grecs, il fit le périlleux voyage sur le navire Argo pour conquérir la toison d'or gardée par un dragon. Il chassait également à Calydone, le jour où Artémis y envoyait un sanglier monstrueux, et contribua avec les plus audacieux à abattre la terrible bête. On pourrait énumérer encore longtemps ces glorieux exploits, mais pour l'heure, je me contenterai de celui qui nous permettra de voir enfin l'oiseau couleur de rubis. Vous devez vous douter qu'il sera question du dernier combat de Caenos, lequel n'eut pas lieu ailleurs qu'aux noces de Pirithous, roi des Lapithes. Le roi avait, comme il se doit, convier des invités au mariage. En premier lieu, les braves Lapithes, mais également les centaures, ces étranges créatures mi-hommes, mi-chevaux, dont le corps, mais aussi l'âme, est à moitié humaine. Comment avait-il pu avoir l'idée d'inviter les centaures à demi-sauvages à ces somptueuses festivités? Eh bien, tout bonnement parce qu'ils étaient vaguement parents. Mais de là à dire comment? Quoi qu'il en soit, le roi n'avait pas voulu les offenser. Il était d'humeur très généreuse avant ce mariage. Pendant un moment, la fête se déroula sans encombre. L'hydromel coulait dans les coupes des convives. Les tables en chêne croulaient sous des plats de viande aux fumées délicats, d'olives et de fromage, et des corbeilles de fruits suaves, grappes de raisin, oranges et grenades. Tout se passait pour le mieux. Les Lapithes et les centaures s'amusaient pareillement. Jusqu'à ce que... Hélas, il suffit d'un instant pour que les choses se gâtent. L'un des centaures s'était sans doute un peu trop abreuvé. Autrement dit, le vin de paille lui était monté à la tête. Vous savez ce que cela veut dire. Il était saoul comme une bourrique. Or, il était à moitié cheval. Au demeurant, on n'avait encore jamais entendu parler d'âne ivre, mais plutôt d'homme que le vin abrutissait au point d'en faire des ânes. Bref, ce centaure qui avait perdu la tête se rua vers Hippodamie, la jeune mariée. Il la fixa d'un œil glauque, puis tendant saoul dans la main, il agrippa son voile safran qu'il arracha d'un geste brutal et lui hennit au visage en éclatant d'un rire dément. Il n'en fallut pas davantage aux Lapithes, dont notre Caenos. Ils se levèrent aussitôt de table et se précipitèrent au secours de la mariée. Oui, mais voilà, les centaures ne restèrent pas non plus en place. Renversant leurs plats, ils bondirent aux côtés de leurs frères et ce qui s'ensuivit est à peine descriptible. Vous pouvez imaginer ce que c'est lorsqu'un banquet de noces se transforme en champ de bataille. Hippodamie et ses suivantes se réfugièrent au fond de la grotte ornée de feuillages, tandis que les héros et les centaures, oubliant totalement qu'ils étaient des invités, assombrirent la fête en se battant, se blessant, n'épargnant ni eux-mêmes ni leurs adversaires. Ils se battaient sans même plus savoir pourquoi et en luttant seulement pour leur vie. Ils finirent par tomber comme des mouches. Plus d'un centaure, plus d'un jeune lapide perdirent la vie dans ce terrible combat. Caenus se battait aussi, ses forces décuplées par la rage douloureuse qui l'avait envahi. L'un des centaures, nommé Latreus, voyant que Caenus avait déjà vaincu 5 des siens, se mit à le railler, se moquant de la violence qu'il avait jadis subie et de son douloureux festin. « Eh bien, Caenus, héros né fille, que viens-tu faire ici? Tu n'étais qu'une fillette pleurnicheuse, tu le resteras toujours à mes yeux. Tu n'as rien à faire dans ce combat, disparais. Va t'enfiler la laine, ta main est faite pour tenir un petit panier, pas une arme. » La fureur de Caenus flamba à ces mots. Sa peine d'autrefois palpita en lui si violemment qu'elle anima son bras et il se rua avec son javelot sur le persifleur. Mais les centaures, le sachant invulnérable, employèrent la ruse. Enfonçons-le dans la terre jusqu'à la taille. Entassons sur lui des pierres et d'énormes arbres. Recouvrons-le pour qu'on ne le voie plus. Débarrassons-nous de lui avant qu'il ne nous terrasse tous. Ils ne se contentèrent pas de crier, mais passèrent aussitôt à l'action. Ils déracinèrent chênes et pins du sol pierreux, puis ensevelirent Caenus sous d'énormes rochers pour l'étouffer. Ils entassaient inlassablement. Les centaures crurent que leur plan était sur le point de réussir. Seulement, tout à leur joie diabolique, ils n'avaient pas vu que l'un des héros lapites, le devin Mopsos, se tenait, affligé, près de l'amas. Il avait remarqué quelque chose qu'il raconta bien longtemps après par un soir paisible à ses compagnons. En cet instant terrible, nul autre que lui ne voyait clair. Un épais brouillard semblait s'être abattu sur les survivants de l'armée de convives qui avait perdu tout son apparat dans la bataille. Seul Mopsos vit un merveilleux oiseau couleur de rubis surgir des feuilles de chêne qui recouvraient la tête de Caenus enfouie sous la masse de troncs d'arbres et s'envoler vers le ciel. Un oiseau couleur de rubis, et il chantait. « Que je t'aime, beau matin de rubis, c'est un chant de miel que je chante pour toi, je suis en vie. » Comme si je volais, danse de joie ma voix et mon esprit. Mopsos n'avait jamais vu pareil oiseau, et n'en a plus jamais vu de tel. Mais à ce moment-là, il savait exactement qui battait des ailes en toute liberté au-dessus des lapites et des centaures, qui chantait dans le ciel ce chant lointain.